Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous appréciez la fin de semaine un petit peu de pluie hier, mais vers 6h30, 7h, non 6h30, là, le soleil est en train de se coucher, on est en train de finir de souper. Je me dis, ah, Star, je peux-tu quitter la table, faut que j'aille courir. Oh, j'allais faire une course juste avec le soleil qui se couchait, c'était absolument génial. On a vraiment un automne super agréable. J'espère que vous en profitez, que vous êtes reconnaissant dans vos cœurs, que vous êtes reconnaissant à Dieu pour cette abondance-là. Ce matin, on termine ensemble notre série sur le travail. J'ai cité une fois Félix Leclerc qui disait sur le travail, « La meilleure manière de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. » Et comme chrétien, puis j'espère à travers la série que c'est ressorti aussi à vos yeux, mais comme chrétien, on peut comprendre ça. On est quand même, il y a beaucoup de vrai dans ça parce que Dieu nous a créés à son image. Et donc, lorsqu'on travaille, lorsqu'on sert, lorsqu'on cultive, lorsqu'on s'investit, lorsqu'on collabore ensemble, en réalité, on est en accord avec notre nature profonde. Profondément, on est des êtres qui avons été créés pour ça. Ce qu'on a vu à travers les trois dernières semaines, on a vu, premièrement, que Dieu est un travailleur. Dieu s'est investi dans sa création. Il est encore investi dedans. Il s'est investi dans notre salut. Christ est venu faire un ouvrage, un travail extraordinaire en rendant possible notre salut, en mourant sur la croix. C'est vraiment une œuvre, c'est un travail. On n'a pas un Dieu détaché de sa création, mais il est là, il est investi. Toute son attention est là. On a vu ensemble qu'on vit dans un monde qui est brisé par le péché. Et donc souvent le sentiment qu'on a que le travail peut être une malédiction, ça peut venir d'une vision distorsionnée du travail, mais ça vient aussi de notre expérience réelle du travail. Un travail dans un monde brisé. Brisé, ça se manifeste par toutes les difficultés, les obstacles qu'on trouve même à travers la nature, nous dit les Écritures, mais à travers la nature humaine, humaine aussi, à travers notre cœur, puis ce qu'on amène dans notre travail nous-mêmes, puis les gens autour de nous. Puis on a vu la semaine dernière que grâce à l'Évangile, l'histoire que je me raconte, lorsque je pense à mon travail, lorsque je rentre dans mes responsabilités, quelle qu'elle soit, quelque forme de travail que ce soit, cette histoire-là peut changer. Cette histoire-là peut être rachetée et je peux voir mon travail comme Dieu veut que je le voie et progressivement, même toute mon expérience du travail peut être refaçonnée, transformée, reconstruite à travers l'Évangile. Et ce matin, on va voir ensemble pourquoi on devrait être reconnaissant pour notre travail. Dans quelle perspective est-ce que le travail, qui semble avoir perdu son sens parce qu'on vit dans un monde affecté par le péché, en même temps, grâce à l'Évangile, retrouve un sens encore plus grand qui va même nous porter jusque dans l'éternité. Et on va terminer avec ça ce matin, notre série sur le travail. Alors, allons ensemble dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Père éternel, ce matin, on veut commencer cet exposé, on veut commencer cette matinée en t'adorant, en reconnaissant que tu es Dieu, que tu es le Dieu qui pourvoit, qui donne, qui a créé toutes choses. Et tu es un être absolument fascinant. Seigneur, lorsque je pense à toi, un des aspects de ta personne, de ta gloire qui m'émerveille, c'est le fait que tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses. Personnellement, Seigneur, encore cette semaine, combien de fois je me suis senti complètement dépassé. Puis j'ai besoin de me tourner vers toi, aller dans la prière, te remettre toutes choses, te remettre ma vie, mes responsabilités, parce que moi-même, je me sens dépassé. Mais toi, Seigneur, tu n'es jamais dépassé, tu es conscient de toutes choses. Les Saintes Écritures nous disent que tu vois toutes choses, tu regardes nos vies, tu regardes chaque instant de ma vie, tu vois chacune de mes pensées, de mes actions. Chacun de mes jours compte devant tes yeux, Seigneur. C'est incroyable, ça me dépasse au nombre d'êtres humains qu'il y a sur la terre. Chacun d'entre eux peut te prier à chaque instant, se tourner vers toi et savoir que tu es attentif, tu es présent dans le moment actuel. Seigneur, nos vies comptent devant tes yeux. Chacun de nos jours, notre travail, nos efforts, qui passent souvent inaperçus, comptent devant tes yeux. Mais Père, je veux te demander ce matin de venir nous montrer à quel point notre travail est important, à quel point il compte maintenant et à quel point il compte pour le futur, même jusque dans l'éternité. Viens parler à nos cœurs ce matin, Seigneur, alors qu'on fête l'action de grâce. Aide-nous à rendre grâce pour cette opportunité de servir, de travailler, de servir notre prochain, de glorifier, Seigneur, à tous les jours par les responsabilités que tu nous as confiées. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Il va y avoir aussi une deuxième lecture qui, elle, va se faire dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Tout ça dans l'édition Second 21. Donc, je répète, Matthieu 25, versets 14 à 30, par la suite, Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsqu'après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as aidé fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, et bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas plané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et on sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Maintenant, Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, sera son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Merci, Luc. Cette semaine, j'ai eu 46 ans. C'est drôle, 46 ans, on disait pas ça pour ça. Mais c'est comique parce que 46 ans, les gens viennent me saluer, puis j'arrive comme à un âge où il y a des gens qui ils savent comme pas si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle, tu sais. C'est comme, t'as 46 ans, puis là, s'ils sont plus jeunes, tu lis dans leurs yeux, tu meurs bientôt, c'est ça. Ils savent comme pas trop comment te traiter, tu sais. Mes enfants, c'est drôle, il y a peut-être 2 ans environ, quelque chose comme ça, là, tu sais, il y a un âge, t'arrives à un certain âge où tu commences à placer du temps, puis dans leur tête, je suis pas vieux, mais quand je dis mon âge, je peux pas être jeune, tu sais. Comme ma vie achève, c'est sûr. Fait que c'était drôle, c'est vraiment drôle cette semaine. Quand les gens venaient me souhaiter bonne fête, je sentais un malaise chez certains. Ils savaient pas s'ils devaient se réjouir avec moi ou si... OK, comment tu vis ça, 46 ans? La vie est courte. C'est ça que tu mesures. Quand tu arrives à 46 ans, tu dis, « Wow, OK, 46 ans, les probabilités que je fasse le double de ça sont pas absolues, là. » Puis plus j'avance, plus les stats disent que peut-être, Seigneur, ce serait cette année. Tu viendrais me chercher, on ne sait pas. Il peut subvenir n'importe quoi dans ma santé, on ne sait pas. Comme chrétien, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas été créé pour mourir. Ça, c'est super important dans l'exposé de ce matin. C'est super important lorsqu'on pense au travail. Comme chrétien, j'ai la conviction profonde, parce que c'est ça que les Écritures me disent, qu'on n'a pas été créé pour mourir. On a été créé pour vivre éternellement. Et l'expérience de la mort est une malédiction qui est venue. On a vu tout ça déjà. Mais ça jette une perspective nouvelle sur l'expérience du travail, parce que moi, je crois profondément, parce que c'est ce que les Écritures enseignent, je crois qu'on a été créé pour bâtir, pour construire, pour élever des choses, pour mettre des choses en place, pour fonder un foyer, puis jouir de ça, puis voir comment c'est merveilleux ce qu'on peut faire, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, puis Dieu prend plaisir dans sa création, et si moi je peux créer, si je peux construire, si je peux bâtir, je devrais pouvoir prendre plaisir aussi dans ça, puis glorifier Dieu à travers ça. Donc, dans un sens bien réel et bien profond, je comprends, je ne fais pas juste expérimenter dans mes tripes, je comprends l'espèce d'amertume qu'il y a dans la vie de ne pas avoir cette liberté-là de bâtir éternellement. Cette semaine, j'ai écouté avec mon gars Three States of Jones, qui est un film sur la guerre de sécession, puis l'abolition de l'esclavage, puis c'est basé sur un fait vécu, un individu, puis ensuite de ça, quelques comtés américains dans le sud des États-Unis qui ont cherché vraiment à défendre, dans le fond, à mettre en œuvre l'abolition de l'esclavage, la fin de la ségrégation, tout ça. Puis tu vois cet homme-là travailler avec sa famille vraiment toute sa vie pour faire des gains qui sont très relatifs. À plusieurs reprises, c'est comme si tout ce qui a été gagné est brisé, des gens sont tués, on repart à zéro. Puis la fin de ce récit-là, puisqu'on ça se termine dans cette époque-là, tu vois que ça va prendre encore des décennies et des décennies avant vraiment que les choses changent. Puis tout n'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Et donc, dans l'expérience de la vie d'un homme, bon dans le sens qui travaille fort, qui a cœur des bonnes choses, tu vois la frustration d'une vie où tu n'arrives pas à construire vraiment, puis les choses sont démolies, puis les choses sont détruites. Donc, d'une manière bien réelle, comme chrétien, je comprends ce sentiment-là, cette frustration-là qui fait que le travail semble avoir perdu son sens. Et ce qu'on va voir ce matin en terminant la série, c'est important. Je pense que c'est un des aspects ou une des vérités, une des doctrines chrétiennes que les chrétiens occidentaux, contemporains, dans le confort dans lequel on vit, c'est une des vérités bibliques dont on se sert le moins, dont on jouit le moins, qui nous édifie le moins, alors que c'est une de celles qui devrait nous édifier le plus. Ce matin, on va voir ensemble que grâce à l'Évangile, le travail trouve un sens plus grand encore pour l'éternité et dès maintenant, mais pour l'éternité. Et donc, ce que je suis en train de faire maintenant dans mon travail, à partir du moment où j'ai placé ma foi en Christ, prend une portée éternelle. Et le sens qu'il avait perdu, il le reprend, même avec plus de profondeur encore. Luc nous a lu dans Apocalypse 21, Je vous lis juste, je vous relis trois versets. Apocalypse 21, 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle ou le temple de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Nous ne quittons pas la terre pour aller au ciel avec les oiseaux. Je ne sais pas comment... Je sais que je reviens souvent sur ça, hein? Mais je suis convaincu que c'est bon que je répète ça. Je suis convaincu que ce n'est pas vraiment rentré dans notre esprit et dans nos cœurs encore. Je ne sais pas comment vous imaginez l'éternité, puis j'ai l'impression encore une fois que notre expérience d'une vie relativement confortable en Occident fait que lorsqu'on pense au ciel, il y a quelque chose de profondément quétaine qui nous attend de l'autre bord. Tu sais, je ne sais pas si vous imaginez que vous allez toutes être habillées dans des toges blanches, puis Yannick va enfin être content parce qu'il va pouvoir être nu-pied pour l'éternité, puis il va flotter il va avoir des petites ailes qui vont pousser, puis pendant l'éternité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter de nuage en nuage, puis on va se prendre la main, puis on va faire des belles rondes ensemble, on va faire des Scrabble ou des mots croisés célestes, puis on va se taquiner, on va se lancer des petits nuages comme ça, puis on va chatouiller avec des petits morceaux de nuages, puis on va chanter des chansons pour l'éternité. Honnêtement, si c'est ça, c'est vraiment quétaine. Ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas. J'aime avoir quelque chose devant moi que je dois construire, que je dois faire. J'aime comprendre quelque chose. J'aime voir quelque chose. J'aime ressembler à Dieu puis dire, « Wow, je veux m'investir dans des choses grandes. Je veux comprendre la grandeur de Dieu, la beauté de ce qu'il est comme personne, la richesse. Je veux entrer dans ça. » Alors, je ne sais pas comment vous pensez à l'éternité. Mais si vous pensez que c'est une maison de retraite pour personnes âgées qui vieillissent plus pour l'éternité puis qui sont devant des postes de téléviseurs où ils ont juste comme une fenêtre sur l'éternité puis qui attendent juste leur petite purée céleste à l'heure du lunch, vous n'avez pas compris c'est quoi. Parce que les Écritures nous disent qu'on est terrien pour l'éternité. C'est ça que les Écritures nous disent. Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, nouveaux cieux, nouvelle terre, une Jérusalem céleste qui est l'Église aussi. Je ne comprends pas encore toutes ces choses-là. Je vais avoir besoin de les voir pour vraiment bien tout saisir ça. Il y a une grande part de mystère dans l'Apocalypse, c'est très, très clair. Mais les Écritures nous disent clairement qu'on est terriens pour l'éternité. On est des terriens pour l'éternité. On ne quitte pas ici pour aller vivre dans les cieux pour l'éternité. Et je sais que ce n'est pas simplement métaphorique parce que Jésus est le premier des nouveaux terriens. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, avec un corps glorifié, les Saintes Écritures nous disent qu'il est le premier-né d'entre les fils de Dieu. Et donc, il y a un corps glorifié qui est un corps bien réel. Puis au début, les disciples ne croient pas ça. Puis je veux dire, si vous êtes pas chrétien, vous dites, bon, regarde, là, c'est là que je décroche. Si tu me disais, tu sais, qu'on a comme juste une âme, puis qu'on va flotter, puis finalement, on est juste comme une parcelle de quelque chose, d'énergie. OK, ça, je peux croire à ça, mais attends un petit peu, là, on ne va pas comme ressusciter. Man, si tu veux connaître l'Évangile, si tu veux comprendre Jésus-Christ, si tu veux comprendre la Bible, il faut que tu acceptes que tu n'es pas juste une âme dans un mauvais corps. C'est un être humain avec de la matière, un esprit, puis c'est comme ça qu'on a été créé. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y avait un corps bien réel, différent, glorifié, mais bien réel. Il a pris le temps de manger parce que là, il se disait, non, les disciples se disaient, on a, c'est un songe, on a une apparition. Puis Jésus-Christ a un vrai corps. Alors, je ne sais pas comment tu conçois l'éternité, mais tu n'étais rien pour l'éternité. Nouveau ciel, nouvelle terre. Corps glorifié, les choses vont être différentes. Tu n'étais rien pour l'éternité. Et donc, il y a une continuité. Dieu vient recréer l'Éden qui a été brisé par le péché. Et on n'est pas complètement ailleurs. On n'était rien encore. Et Jésus est le premier des nouveaux terriens. Ce qui fait que notre travail compte aujourd'hui, compte pour l'éternité. Dans cette parabole que Luc nous a lue dans l'Évangile de Matthieu, Jésus raconte l'histoire, puis il ne donne pas tous les détails, mais il raconte l'histoire de serviteurs qui se voient confier de l'argent. Les talents, dans ce cas-là, c'est de l'argent. Et donc, il se voit confier ça, puis il doit faire fructifier ça, puis le maître s'en va, puis il dit, je vais revenir un jour, puis vous allez rendre des comptes pour ces choses-là, de toute évidence. Puis là, il y en a qui sont wise, puis qui se disent, j'ai un maître qui s'attend à ce que j'investisse vraiment. Puis il y en a un des trois qui dit, non, moi, je voudrais pas perdre ce que j'ai. Et donc, tu réalises à la fin de l'histoire qu'en fin de compte, en investissant pas, il a perdu même ce qu'il avait, parce que le maître s'attendait à ce qu'il l'investisse. Et le maître dit aux deux serviteurs qui vraiment ont investi tout ce qu'ils avaient comme ressources. Il leur dit au verset 23, son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Souvent, lorsqu'on pense à l'éternité, on se dit, « Bon, mais lorsque je vais mourir, je vais aller dans la joie de Dieu. » Là, c'est comme... C'est là que ça devient comme un petit peu irréel, là. De rentrer dans la joie de Dieu. Mais ce récit-là, et ailleurs dans les Écritures, Dieu me dit qu'il y a un travail qui me réserve de l'autre côté, que je vais entrer dans une œuvre, il va me confier davantage. Et donc, si c'est vrai qu'il y a cette idée de communion avec Dieu, entre dans la joie de ton maître. Cette parabole-là dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Et donc, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais je n'ai pas d'indice dans les Écritures qui me disent que je vais devenir inactif et apathique pour l'éternité. Au contraire, ce que cette parabole-là me dit, c'est que tout ce que je fais ici, chaque geste que je pose, et là, pensez à Jésus qui dit, si tu prends un verre d'eau, puis tu donnes un verre d'eau à l'un de ces plus petits d'entre les miens, ça compte, je le vois. C'est n'importe quoi, là, tu sais, c'est un verre d'eau. Je comprends que c'était compliqué, là, à cette époque-là, c'était pas juste une champleur, mais comprenez, c'est juste un verre d'eau, là. C'est pas grand-chose. Non, mais Dieu dit, ça compte, je regarde, là, c'est bon, ça compte. Et lorsque tu vas te présenter devant moi, je vais considérer toutes ces choses-là. Et donc, cette parabole-là, cette histoire-là me dit que chacune de mes actions, lorsque je me lève le matin, puis je décide de pas laisser ma chambre à l'envers, mais je décide de faire mon lit, puis de me ramasser, quand je mange, je quitte ma place, puis je laisse la place propre, puis je me dis, il y a quelqu'un d'autre qui va passer. Après, je suis au cégep, puis je laisse juste le coin propre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va servir de ce local-là. Dieu considère ces choses-là, puis il y a quelqu'un qui m'appelle, qui fait le pas, puis je prends juste 5 minutes, « Hey, j'ai pensé à toi, juste un petit texto, je prie pour toi. » Chacune de mes actions compte. Et d'une manière quelconque, je peux dire que entrer dans l'éternité, ça va être une promotion en relation avec l'œuvre que j'ai faite ici-bas. Je ne sais pas exactement ça va être quoi, mais ça ressemble à ça. C'est tellement important notre vie ici-bas que Jésus dit dans cette parabole au mauvais serviteur qui n'a pas décidé d'investir toutes ses ressources. Il dit au verset 30, « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et clairement, dans le langage biblique, on fait référence à la damnation éternelle. Et donc, Dieu nous dit même que notre vie, nos actions, ce qu'on fait, a une conséquence éternelle. C'est pour ça que l'Évangile est précieux pour nous, comme chrétiens. L'Évangile de la grâce de Dieu, parce que je sais que toutes mes actions ne sont pas bonnes et j'ai besoin que Dieu me pardonne. Et donc, tout le monde devrait considérer cette parole-là sérieusement, cette parabole-là sérieusement. Celui qui dit, « Oui, mais Yannick, moi, je me suis confié dans la grâce de Dieu. » Ah, donc, tu penses que tu peux juste comme t'installer devant ton Nintendo pour l'éternité puis tu n'as plus rien à faire pour plaire à Dieu? Quand tu vas te présenter devant Dieu, il va prendre en compte ce que tu as fait avec tout ton temps, toute ton énergie. J'aime bien cette citation de Tom Nelson. Je vous ai dit dans la série, je m'inspire beaucoup du matériel Gospel Shaped Work, dont Tom Nelson est un des auteurs. Il dit, une bonne intendance avec tout ce que Dieu nous a donné est une marque indéniable d'un vrai disciple de Jésus-Christ et essentielle à une vie bien vécue. On n'est pas vraiment des propriétaires de quoi que ce soit, parce que l'oxygène que je respire, c'est Dieu qui l'a créé. Le corps que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Les enfants qu'il me confie, il me les confie. Qui confie, c'est pas ma propriété. On est plus comme des intendants qui se voient confier des choses. Et cette parabole-là me dit que ce que je fais avec toutes les ressources que Dieu m'a données compte. Et chaque fois que je décide de faire le bien, de vraiment refléter la personne de Dieu, ça compte. Et si je décide de vivre une vie où je me dis, je me présenterai jamais devant Dieu, j'aurai jamais à rendre des comptes, où je vais pas m'investir, il y a des conséquences éternelles à ça aussi. Et donc, tout le monde devrait considérer sérieusement cette parabole-là. Pas seulement celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Celui-là, à plus forte raison, devrait le considérer. Mais le chrétien aussi devrait considérer cette parabole-là très, très sérieusement. Ton travail compte, il compte devant Dieu et il compte pour l'éternité. Et on pourrait dire qu'on se prépare à notre prochain job pour l'éternité. On pourrait dire ça. Mais peut-être que tu dis, dans le fond, que ton travail n'est pas extraordinaire. C'est correct, mon travail compte, mais mon travail est poche. C'est pas un travail extraordinaire. Donc, j'espère que je ne vais pas juste avoir une promotion dans la prochaine vie, puis au lieu d'avoir 4 pièces à balayer dans ma journée, je vais en avoir 22. J'espère que ça va être autre chose. J'aime vraiment cette citation-là de Martin Luther King, qui n'est pas Martin Luther, le réformateur, je dis toujours. Martin Luther King, qui a vraiment travaillé pour la défense de l'égalité des Noirs. Et il dit ceci, « Si ton travail est celui d'un balayeur de rue, balaye les rues comme Michel-Ange peignait une toile. » Comme Shakespeare écrivait un poème, comme Beethoven composait, balaye les rues si bien que tous les anges du ciel devront s'arrêter et déclarer « Ici a vécu un grand balayeur qui a bien fait son travail. » Quand tu réalises que ton travail a une portée éternelle parce que Dieu est témoin de tout ce qu'on fait, qu'on le fait pour la gloire de Dieu, pour aimer notre prochain, même les plus petites choses, quand je vais dans la vaisselle, quand je décide de sortir les vidanges puis de garder la ville propre, quand n'importe quoi, quand tu réalises ça, tu réalises que ton travail ordinaire devient extraordinaire. En anglais, il y a une expression « for an audience of one », devant un seul témoin. Ce qui n'est pas tout à fait biblique. Parce que je ne fais pas les choses seulement devant Dieu. Je les fais comme si c'était seulement devant Dieu. Ça, c'est mon motif. Mais je le fais aussi devant les hommes. Parce que je crois qu'il y a là un témoignage puissant. Voyez-vous, les chrétiens, souvent, on se dit qu'il y a deux sortes de travail. Il y a le travail qui est pour le royaume de Dieu. Il y a le travail qui a une portée éternelle. Aujourd'hui, j'ai annoncé l'Évangile à quelqu'un, puis... Je veux dire, un chrétien ne peut pas faire grand-chose de plus excitant sur la terre que d'annoncer l'Évangile à quelqu'un. J'ai eu des nouvelles cette semaine, quelqu'un dans ma famille qui, selon toute évidence, a accepté le Seigneur. C'est comme, c'est le ciel, tu sais, tu ne peux pas aller plus loin que ça comme chrétien. Mais en même temps, on fait cette espèce de séparation-là souvent, les chrétiens, il y a les choses qu'on fait pour le royaume de Dieu, puis il y a les choses insignifiantes qui n'ont pas de portée éternelle. Je suis désolé, c'est insensé, c'est stupide comme raisonnement, c'est ne pas comprendre les Écritures. Puis je suis le premier coupable. Quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, dans la première année, je regardais Richard Roule, je regardais le pasteur en avant, puis je disais, tout le reste, ça sert à rien. Moi, c'est ça que je veux faire. Je pensais aller en philo, je pensais aller en psycho, j'étais en train d'étudier en éducation spécialisée. Je me disais, ça donne rien, ça. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire quelque chose qui compte pour l'éternité. Et quand tu as un bozo de 18, 19, 20 ans qui vient te voir et qui dit « Tout le reste est inutile, c'est ça que je veux faire. » Tu sais déjà que sa théologie est tout croche. Là, tu dis « Continue à prier, mon bonhomme. » Parce que quand Dieu va te montrer qu'en fait, tu ne faisais pas ça pour la gloire de Dieu, tu faisais ça parce que tu voulais un micro, tu vas réaliser dans le fond que tu es pareil comme tout le monde. Puis tu vas voir que c'est compliqué. C'est beaucoup de responsabilité. Pour un chrétien, il n'y a pas les choses que je fais pour le royaume de Dieu qui sont spirituelles et les choses que je fais pour le royaume du diable. Quand tu ne sors pas le royaume de Dieu, toi, tu sors le royaume du diable, c'est ça? Tu fais quoi? Tu fais des choses inutiles. Tout d'un coup, tu as recommencé à servir le diable parce que là, c'est pas spirituel. Tu n'es pas en train de prêcher la parole. Pour un chrétien, chacune de ses actions sont profondément spirituelles parce qu'elles sont faites devant Dieu. C'est vraiment ironique que la première job de Christ, dans une perspective très spirituelle, était vraiment poche. Je veux dire, la vocation de Christ pendant au moins 15 ans de sa vie, c'était de raboter du bois. Pendant 15 ans de sa vie. Puis j'imagine Jésus qui était là et qui disait « Père, j'attends juste de pouvoir te servir, je perds mon temps, tu comprends pas, ils ont besoin de moi. 12 ans, je les connais déjà les vérités, je suis en train d'enseigner au temple. Pourquoi je vais passer encore 18 ans à raboter du bois? Puis c'est complètement inutile! » Ça ne sert à rien. Je peux faire des miracles. Now! Tout de suite, je peux commencer à guérir du monde. Tout de suite. Écoute, juste 3 ans. 3 ans. Rajoute-en 12. Rajoute-en 20. Imagine, Père, imagine 2 secondes. À 7 ans, je sors puis je commence à faire des miracles puis à prêcher la parole. À 30 ans, ils vont capoter sur moi. Imagine si je faisais ça à 7 ans. Non, non, non. Le Père, il dit, tu vas être charpentier, mon copain. Tu vas aller raboter du bois, construire des meubles, chercher à satisfaire un client. Et parce que je connais Jésus à travers les Écritures, je sais que ce travail-là, il l'a fait avec la conviction profonde à tous les jours qu'il est en train de faire la volonté de son Père. Je sais que je n'avais pas un Jésus qui était impatient, qui avait hâte de faire des choses pour le royaume de Dieu. Je savais que là, lorsqu'il est en train de servir, lorsqu'il est en train de bien servir quelqu'un, lorsqu'il est en train de s'appliquer, lorsqu'il respectait son formateur, qui n'était sûrement pas un boss parfait. Joseph, c'était pas un boss parfait. Son père qui l'a formé, tu sais, Jésus avait pas comme le parfait patron. Il y avait des moments où Jésus voyait très bien tous les péchés de Joseph qui sortaient dans sa manière de s'irriter contre un client qui paye pas ou n'importe quoi. La première vocation de Jésus, est-ce qu'elle était poche? Puis après ça, il est devenu une superstar du miracle instantané. Il servait son Père, il glorifiait Dieu, il servait le royaume à travers des choses toutes petites de tous les jours. Parce que dans cette attitude-là, il est en train de servir et d'aimer son prochain. Jésus était l'homme parfait. Il était l'homme parfait pas en marchant sur les eaux. Il était l'homme parfait en rabotant du bois puis en disant « Oh, attends un peu, il n'était pas parfait mon tiroir, je vais t'ajuster ça, viens-t'en, on va placer ça comme il faut. » Et ça a été la vocation de Jésus pendant au moins une quinzaine d'années, probablement plus, parce qu'il commençait très jeune à l'époque à être formé. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, versets 20 à 24, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Puis là, Paul va loin. La semaine dernière, je vous ai parlé de Philémon puis d'Onésime. Paul va loin. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. Donc, rien contre les promotions, Paul. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Dans ton cœur, tu es libre. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ, au contraire. Tu pensais que tu étais libre, maintenant tu es un serviteur de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves, des hommes, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Et donc, lorsqu'une personne en vient à connaître Jésus-Christ, réalise qu'il y a un royaume qui est plus grand que le royaume des hommes, c'est le royaume de Dieu qui est là sur la terre où il y a des chrétiens qui vivent ces valeurs-là, et un jour, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il n'y a pas besoin de quitter son emploi, il n'y a pas besoin de commencer à mépriser la quotidienneté, la simplicité, les frustrations du travail en se disant « Moi, je voudrais juste servir Dieu. » Parce que le reste du temps, tu sers le diable. Tu ne catches pas. Paul dit « Non, 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 continue à faire ce que tu fais. Si tu aspires à d'autres choses et tu as des opportunités, tu fais bien d'en profiter. Mais servir Dieu en étant mécontent parce que tu méprises le travail simple qu'on t'a donné, il n'y a pas de petite vocation pour un chrétien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de travail pas noble pour un chrétien. Pensez à un hôpital un instant. Pensez à un hôpital. laquelle des fonctions, lequel des métiers, lequel des corps de travail, lequel des professions vous voulez enlever d'un hôpital en vous disant « insignifiant ». C'est laquelle? C'est le préposé au stationnement? Je sais pas. Pas sûr. Gardien de sécurité? Peut-être la personne qui passe le balai dans l'hôpital. Son rôle est vraiment inutile. C'est sûr. Tous les hôpitaux, on pourrait couper ça d'un budget puis remettre ça sur des opérations. Préposé aux bénéficiaires. Hey, moi, j'ai été préposé aux bénéficiaires. Tu te rappelles pas qu'est-ce que c'était lorsque tu avais 2 mois puis que tu restais un petit peu trop longtemps dans ta couche, hein? Mais je peux-tu te dire que lorsque tu as 70 ans puis que tu peux pas te changer toi-même parce que ta santé est en train de tomber, moi, je le sais. Comment, lorsque je rentrais dans une chambre, puis je traitais la personne pas comme « Viens, mon petit monsieur, ma petite madame, viens, on va aller laver ton petit caca. » Mais je lui parlais avec dignité, je la respectais, je m'intéressais à elle. Je respectais que c'était une situation qu'elle ne désirait pas, qui était humiliante, puis je la traitais dignement comme un être humain. Je savais que lorsque je quittais cette pièce-là, elle était mieux dans sa peau, littéralement. Pourtant, j'étais préposé aux bénéficiaires. J'étais fier de ça. Parce qu'il n'y a pas de travail trop humble pour un chrétien. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de vocation qui sont indignes du royaume de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Parlons d'un autre parfum maintenant, que celui-là. Le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Lorsque je suis en train de travailler, je peux refléter le parfum de Christ, dégager ça et la gloire de Dieu dans mon travail. Et donc, n'importe quel travail peut devenir extraordinaire. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, 14 à 17, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Et donc, à mon travail, une des manières que je peux être un parfum de Christ, c'est en portant ce message-là de l'Évangile. Des fois, il va être mal reçu, des fois, il va être bien reçu. Mais à travers mon travail, à travers mon application, à travers les relations que je vais développer, je vais saisir des opportunités sur un heure de lunch à inviter quelqu'un à aller prendre un café parce qu'il s'interroge, il veut me connaître, il veut savoir c'est quoi cette foi-là qui est en moi. Et donc mon travail ordinaire devient extraordinaire parce que ça me donne une porte pour être en contact avec les gens autour de moi puis vraiment les aimer en osant leur parler de Jésus-Christ. Et je vais le faire en annonçant l'Évangile. Mais je vais aussi leur parler de Jésus-Christ en ayant un bon témoignage à travers mes œuvres. Et donc, je dois chercher absolument les deux dans mon travail. C'est Jésus qui dit, je sais que je me répète, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais c'est parce que je crois que c'est important dans le contexte du travail. C'est important dans tous les contextes de notre vie, c'est important dans le contexte du travail. Dans Matthieu 5, 14 et 16, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, vos bonnes œuvres, dans d'autres traductions. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de Dieu, la gloire de votre Père céleste. » Et dans le contexte, c'est les béatitudes, ça parle d'attitude, ça parle d'accepter des fois d'être méprisé, de ne pas chercher la gloire, toutes sortes de choses qui se traduisent au travail, et ça parle d'annoncer Jésus-Christ. Et donc, pour un chrétien, tout ça, c'est un tout. C'est un ensemble, la manière que je me comporte au travail, l'excellence que je poursuis au travail, le fait que les mesquineries, les ambitions, c'est pas des choses qui me drive moi. Je cherche à être honnête, je cherche pas des coups de couteau dans le dos. La même chose dans mes responsabilités. Les gens n'assument pas leurs responsabilités à la maison. Moi, j'assume les miennes. C'est pas grave. Je vais pas me mettre à calculer puis à dire, mais tant pis pour lui. Je rachète des situations qui sont malheureuses parce que quelqu'un n'a pas assumé ses responsabilités puis je décide de le faire. J'accepte de servir quand on dit pas merci puis quand on dit pas, ah, bravo, t'es génial. Non, parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ. J'ai pas besoin des applaudissements des gens. Je sais tout simplement que je suis en train de servir cette nouvelle nature. Dieu, avec cette nouvelle nature qui est en moi, d'être un serviteur tout simplement. La manière et l'attitude avec laquelle t'étudies a de l'importance. Avec laquelle tu prépares un repas a de l'importance. Avec laquelle tu réponds à un client frustré a de l'importance. Avec laquelle tu aides en t'occupant d'une personne malade a de l'importance. Ça a de l'importance parce que ça va te poursuivre dans l'éternité. Parce que Dieu considère chacune de tes actions. Ça a de l'importance parce que par ton travail et par tes paroles, tu es un parfum de Christ là où tu as des responsabilités. Et oui, je crois qu'un travail chrétien, c'est un bon travail bien fait. Et oui, je crois que ça fait partie du bon témoignage qui donne de la crédibilité quand tu ouvres la bouche pour parler de Jésus-Christ. Oui, tout ça est un tout. Et Dieu considère toutes ces choses-là. En conclusion de toute cette série-là sur le travail, on peut remercier Dieu pour le travail. On peut remercier Dieu de nous avoir créés à son image comme des êtres travaillants, besogneux. Quand tu pries pour ton travail, quand tu te lèves pour travailler, quand tu rentres au travail, et quand le travail est difficile, tu peux dire merci pour ma job. Quand tu travailles, travaille pas simplement pour travailler. Travaille pas comme si toute ton identité était dans ton travail non plus. Quand ton travail est difficile, constate que tout le travail a été affecté par le péché et cherche comment l'Évangile de Jésus-Christ vient changer ta manière de voir ton travail, ta manière de voir les gens que tu es en train de servir, les gens avec qui tu travailles. Travaille pas simplement pour plaire aux hommes. Fais-le pour le Seigneur. Mais travaille aussi pour aimer et servir ton prochain et briller par tes bonnes œuvres. Travaille en t'affichant pour ta foi, sagement, en respectant les règles du milieu. Cherche à partager l'Évangile. Mais travaille fort et bien parce que le travail chrétien ne peut être autre chose qu'un bon travail bien fait, quel qu'il soit. Et travaille en sachant que tu reflètes la nature même de Dieu, d'un Dieu travaillant qui nous a créés et qui nous a sauvés au prix d'un ouvrage absolument extraordinaire, l'Évangile de Jésus-Christ. Travaille enfin en sachant que le travail d'un chrétien retrouve tout son sens parce qu'il prend une portée éternelle. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es Dieu et parce qu'à travers un sujet aussi terre à terre pour nous que le travail, nous avons pu te découvrir un peu plus. Découvrir ce Dieu travaillant qui n'est pas ces divinités imaginées par les hommes qui sont détachées de la création, qui veulent simplement qu'on se prosterne devant elles pour être servi pour l'éternité. Tu es ce Dieu glorieux qui est digne de notre adoration, mais tu es ce Dieu aimant et travaillant qui a choisi aussi d'être un serviteur. Tu t'es fait, Jésus-Christ, notre serviteur pour le salut de nos âmes. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir créés à ton image, des êtres travaillants. Merci Seigneur pour les responsabilités que tu nous donnes. Pour ceux qui ont un emploi salarié, qui en ont besoin, merci Seigneur. Pour ceux qui n'en ont pas, pourvois Seigneur, parce qu'il est bon et honorable de travailler de nos mains pour pourvoir à nos besoins et avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors donne du travail Seigneur. Mais dans toutes nos responsabilités, dans toutes les formes que prennent notre travail, prendre soin de la famille, préparer des repas, s'occuper des enfants, prendre soin d'un proche malade, faire du bénévolat, simplement être un citoyen responsable dans ma ville que j'habite pour construire cette communauté, construire cette société. Merci Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image. Et on peut entrer dans cette œuvre simplement en jouissant de ce travail-là, en le faisant avec joie, avec reconnaissance de pouvoir créer, de pouvoir construire, de pouvoir collaborer, de pouvoir cultiver cet univers où tu nous as placés. Seigneur, on veut te remercier pour cette terre d'abondance où tu nous as placés. On est choyés d'habiter ici, on en est reconnaissants. On a été encore touchés cette semaine par le désastre à Haïti, Seigneur, et par toutes ces régions qui ont été affectées. Et Seigneur, on dit merci aujourd'hui. On est reconnaissant. Continue à changer, Seigneur, notre expérience et notre vision du travail, afin qu'on puisse briller par nos bonnes œuvres, qu'on puisse faire connaître Jésus-Christ, qu'on puisse simplement te ressembler davantage. C'est en toi seul, Seigneur Jésus, qu'on trouve cette grâce-là. Et je te prie ce matin en terminant pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, Jésus-Christ. Viens te révéler à eux. Et te révéler à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent découvrir vraiment pourquoi ils sont ici sur la terre et que cela prenne un sens nouveau jusque dans l'éternité. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.